kelen tontot.
Vendredi, le métal fait son show sur Bac FM. Bienvenue dans l'émission Check Melode. Nous sommes le 26 novembre. Il fait froid, mais le brasier ardent du métal va réchauffer vos oreilles et vos cœurs de sa sélection de nouveautés incandescentes. Au programme de cette édition, on retrouvera du heavy américain, tout d'abord avec Black Label Society. On aura ensuite du power metal symphonique avec les maîtres italiens du genre, Rhapsody of Fire. On s'intéressera ensuite à Lordi, qui sort aujourd'hui non pas un, mais sept albums studio. Et puis on parlera de la résurrection totalement inattendue et incroyable du groupe de heavy metal français Titan, sans oublier les nouveaux albums d'Hypocrisy, de Cynic et de Victory. Enfin, comme vous en avez l'habitude, hein, nous refermerons cette émission sur un air de reprise avec la rubrique Sortez Cover, et aujourd'hui l'immense Freddie Mercury sera à l'honneur, puisque le 24 novembre, donc mercredi, c'est le jour qui marquait les 30 ans de la disparition de ce chanteur au charisme et à la voix exceptionnelle qui a mené le groupe Queen au panthéon du rock. Voilà donc ce qui vous attend durant la prochaine heure. Et donc il est temps d'ouvrir les hostilités de ce Check Me Load avec, pour commencer, un album qui sent bon le houblon, le cuir et la sueur. Il s'intitule Doom Crew Inc. Et c'est la 11e production studio de Black Label Society, la formation du guitariste Zakk Wylde. Alors considéré comme un des true guitar heroes des temps modernes, Zakk Wylde, il fait tout d'abord ses armes aux côtés de Ozzy Osbourne, qu'il va accompagner avec plusieurs allers-retours, mais il est présent à ses côtés depuis 87. Il y a eu des périodes où il est plus là, des périodes où il revient. Pour l'instant, il en est un des membres live. Ainsi, il apparaît en tant que guitariste et compositeur sur plusieurs albums du Madman, parmi lesquels No More Tears, qui reste à ce jour le plus gros succès commercial d'Ozzy Osbourne en solo. C'est d'ailleurs lorsque ce dernier le remercie en 1995 que Zakk Wylde va s'associer à son ami guitariste Nick Catanese pour fonder ce groupe Black Label Society, qui évolue à ce jour sous forme d'un quartet composé donc de Zakk Wylde au chant et à la guitare, de Dario Lorina à la seconde guitare, de John DeServio à la basse et de Jeff Fab à la batterie. Alors grâce à Black Label Society et à son heavy metal aux influences groove, sludge, stoner, la réputation de Zakk Wylde ne va cesser de prendre de l'ampleur. Rares sont effectivement ceux qui peuvent rivaliser avec la puissance écrasante de ses riffs et puis l'éclatante intensité de ses solos. C'est un artiste hors norme dont on peut également saluer les qualités indéniables d'auteur-compositeur. Et puis enfin, Zakk Wylde, c'est aussi un chanteur redoutable à l'attitude larger than life qui fait de lui un personnage pour le moins impressionnant. Côté discographie, Black Label Society compte donc désormais 11 albums studio à son actif, dont certains sont aujourd'hui incontournables, hein, comme par exemple The Blessed Air Ride, sorti en 2003, ou alors les très remarqués Catacombs of the Black Vatican, paru en 2014, et Grimmest Hits, paru en 2018. Et Doom Crew Inc., qui paraît ce jour, est bien parti pour provoquer le même engouement que ses deux glorieux prédécesseurs. Alors c'est un disque composé de 12 titres qui sont taillés pour faire le bonheur de la légion d'adeptes qui soutient Black Label Society depuis ses débuts. On y trouve toujours l'ombre d'un Black Sabbath qui plane au-dessus des nouvelles compositions, mais il y a aussi d'autres ombres qui sont présentes, je pense notamment à Alice in Chains. Doom Crew Inc, c'est le terrain de jeu parfait pour que fusent les nombreux échanges de solos, de riffs et de parties twin guitars entre Zakk Wylde et Dario Lorina, qui forment un duo redoutable, soutenu magistralement par une section rythmique hyper solide. Hein. On a John DeServio qui fait gronder sa basse, on a Jeff Fab qui martèle avec force et conviction. Avec Doom Crew Inc, Black Label Society signe un 11e album d'excellente facture qui devrait faire date dans sa discographie. En voici justement un extrait avec un morceau qui s'appelle Set You Free. Voici tout de suite Black Label Society sur Back FM. We'll be right back. You Free the Black Label Society, le groupe du true guitar hero américain Zach Wilde sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Il s'agit d'un extrait de Doom Crew Inc. qui paraît aujourd'hui et que je vous conseille. Le morceau qu'on vient d'écouter là, c'est You Free. Il est très Ozzy Osbournien, je trouve, plus que Black Sabbathien. Enfin bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est mon avis perso et ça n'engage que moi. Nous étions aux États-Unis, passons maintenant de l'autre côté de l'Atlantique chez nos amis italiens, puisque là-bas l'événement du jour, eh bien, c'est la sortie du nouvel album de Rhapsody of Fire, un album qui s'intitule Glory for Salvation et qui succède donc à The Eighth Mountain paru en 2018, que j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça assez réussi. Alors Rhapsody of Fire, c'est une histoire qui commence en 93 à Trieste sous le nom de Rhapsody tout court. Les deux membres fondateurs, ce sont d'une part le guitariste Luca Turilli et de l'autre part le clavier Alex Staropoli. Et bah depuis, il faut savoir qu'ils sont devenus frères ennemis. On en dira deux mots tout à l'heure, mais en tout cas, le groupe distille un power metal symphonique très grandiloquent, très épique, qu'il va qualifier lui-même à un moment donné de Hollywood metal. Son premier album, c'est Legendary Tolls, qui paraît en 97, un album qui va faire sensation, qui va imposer directement le jeune combo italien parmi les groupes les plus enthousiasmants de la scène heavy metal européenne de cette fin des années 90. Legendary Tolls marque par ailleurs le début de la saga de l'épée d'émeraude qui va s'étaler sur 5 albums. C'est donc tout naturellement qu'elle se poursuit avec les excellentissimes Symphony of Enchanted Lands en 98 et puis Dawn of Victory en 2000 qui sont à mon avis les deux grands chefs-d'œuvre de Rhapsody. Je dois d'ailleurs vous confier que les disques qui ont suivi ne m'avaient pas laissé un souvenir impérissable et il aura fallu attendre quelques années et attendre une scission du groupe en deux entités il y a 10 ans pour voir enfin Rhapsody of Fire raviver la flamme de sa grande époque. Alors pour rappel, j'ai un peu évoqué, hein, mais Luca Turilli et Alex Staropoli, les deux compositeurs principaux, étaient plus du tout d'accord sur la direction musicale du groupe. Donc Luca Turilli a préféré s'en aller pour fonder sa version de Rhapsody qui s'appelle Luca Turilli's Rhapsody. Et il a emmené avec lui une partie des membres de Rhapsody of Fire qui est quant à lui resté sous la direction d'Alex Staropoli avec ce qui restait du line-up. Et Staropoli, aujourd'hui, il faut savoir qu'il est le seul membre fondateur encore présent. Alors depuis cet épisode, le groupe a sorti tout d'abord le décevant Dark Wings of Steel en 2013, puis il a commencé à reprendre sérieusement des couleurs, de la vigueur, avec les très réussis Into the Legends en 2016 et puis The Eighth Mountain en 2019 qui ouvrait lui un tout nouveau chapitre pour Rhapsody of Fire puisqu'il était le premier volet d'une nouvelle saga qui s'appelle The Nephilim's Empire Saga dont voici le second volet aujourd'hui avec la sortie de ce nouvel album Glory for Salvation à travers lequel nos 5 cavaliers du Power délivrent des compos d'une immense richesse, on en a l'habitude hein. Alors malgré des allures un petit peu plus sombre que d'habitude, ce 13e album de Rhapsody of Fire, il propose de nombreuses pépites de power symphonique, avec des arrangements qui sont grandioses, comme d'habitude, qui sont très épiques. Je pense que ça va faire le bonheur des fans de la première heure, mais que ça pourrait bien faire des adeptes dans ceux qui commencent à écouter maintenant ce genre de musique. Les rythmiques, elles sont quant à elles totalement accrocheuse. Les orchestrations, c'est sophistiqué. Il y a des chœurs d'opéra très puissants qui vont s'entrechoquer avec la voix du frontman Giacomo Volli, qui est très très bon sur cet album. Et tout ça, ça nous fait une escalade polyphonique qui tutoie les plus hauts sommets du power épique. Je pense que Rhapsody of Fire, c'est un groupe décidément indétrônable, dans son genre qui nous prouve avec Glory for Salvation, qui continue malgré tout à dominer cette scène, une scène qu'il a contribué à forger. En voici la preuve en musique avec un extrait de Glory for Salvation et on va écouter le morceau Chains of Destiny, enfourchez vos dragons, le décollage c'est pour maintenant.
Over the storms, I will carry my
Vous écoutez Check Me Load, l'émission dédiée à l'actu métal sur Back FM. Et à l'instant, eh bien, c'était Chains of Destiny de Rhapsody of Fire qui demeure le maître incontesté du power metal épique et symphonique, comme le prouve ce 13e album intitulé Glory for Salvation, qui paraît donc ce 26 novembre et dont le mixage et le mastering sont signés par Seb Leverman, qui n'est autre que le frontman de Horden Hogan. Passons maintenant au cas Lordi qui nous avait déjà surpris début 2021 avec l'attrayant Killection, une compilation fictive regroupant des chansons que le groupe aurait pu écrire entre les années 70 et les années 90 s'il avait déjà existé à cette époque et qui n'était en fait qu'un avant-goût de leur nouvelle folie qui débarque aujourd'hui sous le titre de Lordiversity qui est, tenez-vous bien, un coffret regroupant 7 albums inédits et oui, ils sont définitivement fous, ces lapons. Ça va être le bordel au pays du Père Noël, je pense. Alors, Lordi, c'est un groupe qui est actif depuis 92. C'est la création musicale de Mr. Lordi, son frontman, qui, tel un Dr. Frankenstein du rock, a créé un monstre réunissant ses deux passions, le hard rock des années 80 et le cinéma d'épouvante. Alors, ce concept qui mélange des influences heavy metal et hard rock dans un esprit shock rock, axé autour des monstres de la science-fiction, avec des costumes, des maquillages dignes des meilleurs films de série B, ce concept qui va cartonner en Finlande dès la sortie du premier album Get Heavy en 2002. Mais ce n'est qu'après son passage fracassant au concours de l'Eurovision en 2006 qu'il gagne, hein, coucou Michel Drucker, que Lordi va voir sa notoriété exploser. Son troisième album, The Arcocalypse, en 2006, sera d'ailleurs son premier album à être distribué aux États-Unis et au Japon. Depuis, Lordi mène une carrière plutôt prospère. On trouve même quelques très belles pièces dans sa discographie, d'autres un peu moins attrayante, mais parmi ce que je peux vous conseiller, j'ai envie de mettre To Beast or Not To Beast paru en 2013, Scare Force One en 2014, Monstereophonic en 2016 et puis bien sûr Killection en 2020 puisque c'est un petit peu l'amuse-bouche de ce qui sort aujourd'hui. Et s'il est difficile de déjà dire si le coffret Lordiversity paru ce jour contient lui aussi des pièces qui vont faire date, hein, parmi les 7 albums studio inédit qu'il contient, on peut d'ores et déjà affirmer qu'on y trouve quelques futurs classiques du groupe. Alors soyons honnêtes, hein, dans ces 7 albums, tout n'est pas parfait, on trouve des productions meilleures que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est plutôt réussi, ce qui relève carrément de l'exploit devant un tel défi. Sachant qu'au départ, Lordi avait prévu de sortir non pas 7, mais 10 albums. Alors ça a été catégoriquement refusé par son label, qui lui a dit, non mais là, c'est un suicide musical, on va dire, un suicide artistique. Donc, ils sont résolus à n'en sortir 7. Du coup, vous allez me dire, mais que contiennent-ils ces 7 albums ? Alors, je vais faire un rapide résumé, c'est un peu long. Le premier, il s'appelle Skeletic Dinosaur, et lui, il transpire le hard rock and roll à l'ancienne façon Kiss. Le second, Superfloyd Trap, c'est un album qui s'inspire de l'univers disco, d'ABBA ou des Bee Gees. Oui, vous ne rêvez pas, allez écouter, ça vaut le détour. Le troisième, c'est The Masterpiece from the Moon. Alors, le nom du disque vous donne peut-être un indice sur son contenu, et en fait, vous avez bien vu, il puise son énergie chez les maîtres du progressif que sont Pink Floyd ou Rush. Le quatrième, Abusement Park. Alors, ceux qui connaissent bien le hard rock des années 80 auront compris l'allusion à l'album du groupe Scorpion. Enfin, ça, Abusement Park. Donc, c'est un album qui nous emmène au cœur du hard and heavy de cette décennie 80 qui était porté par Wasp, Twisted Sister et bien sûr Scorpion. Le cinquième, c'est Humanimal. Alors lui, il porte le flambeau du hard rock glam américain de Bon Jovi, Desmond Child, Alice Cooper, tandis que le sixième, Abracadaver, lui, il nous transporte en pleine scène trash des années 90, une scène menée par Anthrax, Metallica et Pantera. Et puis enfin, il y a le petit septième qui s'appelle Spooky Sextravaganza Spectacular, et là, Lordi s'essaye au Metal Indus. Alors vous l'aurez compris, Lordiversity n'est autre que ce prolongement lancé par Killection en 2020, mais poussé ici à son paroxysme. C'est un projet titanesque, mais quand même très réussi. En voici un extrait avec le morceau Abusement Park. Life. le son délicieusement 80s du hard rock de l'ordi avec le titre Abusement Park, extrait du disque du même nom qui rend hommage à la scène hard and heavy de cette fameuse décennie 80 hein, qui est tant à la mode, on en est très nostalgique en ce moment. Une scène portée par Scorpion, entre autres. D'ailleurs, Abusement Park, je pense que ça fait référence à Savage Amusement, l'album de Scorpion. C'est en tout cas un des 7 albums inédits de ce coffret Lord Diversity qui paraît aujourd'hui et qui nous entraîne dans un périple musical eh bien, qui va des années 70 jusqu'aux années 90. Vous écoutez l'émission Check Me Load sur Back FM et voici maintenant l'histoire d'un groupe de heavy metal français qui a écrit sa légende en seulement un album studio et un live avant de disparaître de la scène heavy hexagonale. Ce groupe, c'est Titan, qui signe aujourd'hui un retour aussi inattendu que réjouissant avec un nouvel album intitulé Palingenesia. Alors, Titan, c'est un groupe originaire du Pays Basque, de Bardos exactement. C'est un groupe qui voit le jour autour d'ex-membres du groupe Killers. Il y a notamment Patrick Le Calvez au chant et Sébastien Blanc à la guitare, qui sont les deux membres fondateurs encore présents aujourd'hui et qui sont désormais accompagnés de Patrice Tétis et vide à la seconde guitare, de Pascal Chaudron à la basse et de Inaki Pla à la batterie. L'année de sa création, en 86, Titan sort un premier album éponyme qui est forgé de titres puissants dotés de textes très engagés que le groupe va aller défendre sur les scènes françaises et espagnoles. Ça va être une tournée magistrale qui va être immortalisée par l'album live qui s'appelle, alors le titre est assez curieux, ça s'appelle Popeye Low Road. C'est en 88 que ça sort et malheureusement ce live va sonner la fin du groupe, du moins la fin du premier chapitre de son histoire, puisqu'en 2017, à la surprise générale, Titan se reformait le temps d'un concert exceptionnel dans le cadre d'un festival qui est le Pyrenean Warrior Open Fest. Un retour inattendu qui s'est transformé en triomphe et qui a donné envie au combo à continuer de faire d'autres concerts. Alors ils ont fait quelques dates à la suite, ils sont passés par quelques festivals français renommés et puis ça leur a donné envie de se lancer dans la composition de nouvelles chansons pour enfin donner naissance à un deuxième album studio. De ce travail, on avait découvert un premier avant-goût avec la chanson Résurrection qui avait été révélée fin 2020 et qui résumait un peu la genèse de ce retour. Et puis l'aboutissement de tout ça, c'est la sortie aujourd'hui, en 26 novembre, de l'album Palingenesia. Alors ça, c'est un mot qui est d'origine grecque, qu'on pourrait traduire par renaissance ou régénération. Régénération qui convient peut-être le mieux pour définir ce nouvel opus qui a su conserver ses racines heavy authentiques d'antan, tout en évoluant pour s'inscrire définitivement dans l'air du temps avec une démarche, une production, un propos résolument moderne. Palingenesia, c'est un véritable retour à la vie, un retour aux affaires avec des riffs puissants, des textes percutants qui sont tous sauf chantés en français d'ailleurs. Palingenesia, c'est un album forgé dans l'acier, le fer et le titane qui offre à Titan un retour éclatant. Notre combo basket reprend donc sa place parmi les légendes du heavy metal à la française. Il semble bien décidé à en écrire une nouvelle page. On écoute Titan avec le titre Utopie qui est donc extrait de ce nouvel album. Yeah. metal, retour flamboyant que celui du groupe de heavy metal français Titan, qui avait connu durant la deuxième moitié des années 80 une courte mais intense carrière qui s'était achevée prématurément et qui reprend aujourd'hui plus vive que jamais avec l'album Palingenesia qui est excellemment réussi et dont est extrait le titre Utopie que vous venez d'écouter sur Back FM dans l'émission Check Me Load, Titan qui est mené par Patrice Le Calvez qui fut le premier chanteur du groupe Killers. Alors après une première partie d'émission centrée exclusivement autour du heavy metal, on va se diriger maintenant vers des territoires metal extrêmes avec du death metal suédois puisque ce 26 novembre sort Worship, le nouvel album du groupe Hypocrisy dont le leader n'est autre que Peter Tagren, connu également en tant que frontman du groupe de metal indus Pain, et puis aussi en tant que producteur. Il a d'ailleurs dans ce domaine un CV plutôt impressionnant. Concernant Hypocrisy, c'est à son retour autour d'un séjour de plusieurs mois en Floride, donc berceau du death metal, que Peter Tagren va décider de se lancer dans ce qui va être au départ un projet solo. On est en 90, il va y avoir quelques démos, et puis Tagren, qui occupe les fonctions de chanteur-guitariste et principal compositeur, va quand même décider de recruter des musiciens pour enregistrer un premier album qui s'appelle Penetralia, qui paraît en 92. Avec les albums suivants, The Fourth Dimension en 94, Abducted en 96 et The Final Chapter en 97, Hypocrisy va connaître ses premiers gros succès, mais va se séparer en 98, et là, la pression des fans va être telle que l'année suivante, eh bien, le combo se reforme, sort l'album éponyme, sur lequel on ressent d'ailleurs pas mal les influences de Pain, l'autre groupe de Tagren, qui a été fondé entre-temps. Depuis, Hypocrisy a sorti 7 autres albums qui témoignent de diverses évolutions musicales. Le dernier en date jusqu'à ce jour, c'était End of Disclosure, on était en 2013. Alors sur cet album-là, le choix avait été fait de recentrer la musique sur un aspect plus mélodique. Et donc, après 8 années écoulées, bah, voici enfin son successeur, hein, 13e album d'Hypocrisy, Worship, qui nous envoie direct dans les tympans 11 nouvelles compos implacables, imparables, impitoyables, où la technique est toujours au service de la mélodie. L'authenticité du death typique de la scène suédoise, elle se conjugue ici avec une approche moderne qui donne à l'ensemble un relief, une puissance plutôt incroyable. Worship, c'est un album qui manque pas de férocité, mais dans lequel la dimension épique n'est jamais oubliée. Que vous dire d'autre, si ce n'est que ce nouvel album est d'excellente qualité, il est à la fois riche et varié, il s'inscrit comme une nouvelle pièce maîtresse dans la discographie quasi irréprochable d'Hypocrisy. On en écoute un extrait de Worship avec un titre, comment c'est le titre, c'est Children of the Grey. Voici tout de suite Hypocrisy sur Back FM.
Soldier.
Children of the Grey des Suédois d'Hypocrisy sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Load. Il s'agit d'un extrait de Worship, un 13e album donc pour la formation Death menée par Peter Tagrain. 13e album qui paraît aujourd'hui. Toujours dans le registre Death, même si maintenant ils sont plus dans plus metal que Death, c'est un peu moins extrême dans cette dernière production, mais du Death purement progressif sort également ce 26 novembre Ascension Codes, on va faire ça comme ça. En tout cas, ça c'est le nom du nouvel album des Américains de Cynic. Alors Cynic qui a vécu une année particulièrement terrible en 2020, vous allez me dire comme tout le monde, hein, puisque tout le monde a vécu la pandémie, le confinement, sauf que en plus ils ont été frappés par un double deuil. À quelques mois d'intervalle, ils ont perdu leur ex-batteur Sean Reinhart et leur bassiste Sean Malone. Donc voilà, il y en a qui ont eu quand même une année 2020 un peu plus terrible que d'autres. Alors, Cynic pour les novices en matière de métal, c'est un groupe originaire de Miami, mais qui est établi depuis très longtemps à Los Angeles. Il existe depuis 87 et il est toujours à l'heure actuelle mené par un des deux membres fondateurs, le guitariste et désormais chanteur Paul Masvidal, qui est d'ailleurs un ex-membre du groupe Death, pour la petite information. La musique de Cynic, c'est au départ un death metal progressif extrêmement technique dans lequel on va retrouver de nombreuses sonorité expérimentale mais aussi jazz fusion. La carrière du groupe, on peut la diviser en deux époques. Une première qui va donc de sa création en 87 jusqu'à sa séparation en 94. Alors durant cette première période, il n'y a eu qu'un seul album qui est sorti, c'est Focus qui est paru en 93. Un album qui fait office de référence en matière de death progressif. Et puis ensuite il y a une seconde période. Alors elle a débuté à la reformation du groupe en 2006 et puis elle court toujours aujourd'hui. Durant cette deuxième période et jusqu'à ce jour, Cynic a sorti trois autres albums. Il y a eu Traced in Air en 2008, Kindly Bent to Free Us en 2014 qui ont été encensés à leur parution, et puis Ascension Code qui est leur petit dernier, qui est tout frais paru de ce jour, qui était extrêmement attendu. Un quatrième album qui témoigne de la plus récente évolution dans le parcours de Cynic au cœur du métal progressif. Hein. C'est ce que je vous disais, on quitte un peu les territoires death pour des territoires un peu moins extrêmes, va-t-on dire. Alors une fois encore, le groupe arrive à explorer des territoires nouveaux, arrive à repousser les frontières de sa zone de confort pour atteindre des sommets de maîtrise. Ce nouvel opus embarque l'auditeur dans un voyage cosmique qui défie le temps, l'espace, entre technique impeccable et ambiance reposante. Ascension Codes, c'est une expérience pleine d'énergie mêlée à une quiétude envoûtante. Plutôt que d'en parler, écoutons-en un extrait et je vous propose de découvrir le titre Mythical Serpents. Voici tout de suite Cynic.
Thank you.
Vous écoutez l'émission Check Me Load sur Back FM avec à l'instant le titre Mythical Serpents du groupe de metal progressif américain Cynic, qui sort enfin aujourd'hui donc ce nouvel album intitulé Ascension Codes, on va le dire à la française, ce sera plus simple. Je vois qu'on a encore un petit peu de temps, du coup on va pouvoir découvrir une dernière nouveauté avant de passer à la rubrique Sortez Cover, et on va revenir à du heavy metal avec un groupe allemand originaire de la ville de Hanovre, une ville connue pour avoir vu naître Scorpion. Ce groupe c'est Victory et il sort ce 26 novembre un nouvel album qui porte le titre de Gods of Tomorrow. Alors ça faisait 10 ans que Victory n'avait pas sorti d'album. Fondé en 84 sur les cendres du groupe Fargo, avec à l'époque l'ancien chanteur de Gary Moore et Ted Nugent, Charlie Hunn au micro, Charlie Hunn qui est américain, Victory c'est un groupe de hard and heavy qui joue ce style donc très en vogue à l'époque de sa création, et c'est un groupe qui va être recommandé par Rudolf Schenker en personne à David Krebs, qui est alors le manager de Scorpion et d'Aerosmith et qui va donc devenir le manager de Victory, ouvrant ainsi aux Allemands les portes du marché américain. Et ça marche plutôt bien, puisque le premier album éponyme de Victory, qui paraît je crois en 86, si je ne dis pas de bêtises, en 85 peut-être plutôt, il va connaître son petit succès outre-Atlantique, un succès qui va se confirmer avec l'album suivant Don't Get Mad Get Even, qui lui je suis sûr est paru en 86. Alors cet album là il va avoir pas mal de passages sur les radios US, donc à l'époque, entre les radios et MTV, on arrive à se faire son chemin quand on est un groupe de rock, de hard rock. Alors durant tout le reste de la décennie 80 jusqu'au milieu des années 90, Victory va avoir le vent en poupe, le groupe va enchaîner les bons albums et puis va devenir aux côtés de Scorpion, Accept, Halloween, un des groupes de heavy allemands les plus influents à travers la planète. Depuis, la carrière de Victory, elle est un petit peu plus chaotique, hein, puisque depuis 20 ans, le groupe n'a sorti que 3 albums, du moins composés de titres inédits. Il y a eu Instinct en 2003, il y a eu Don't Talk Science en 2011, et puis donc ce Gods of Tomorrow qui paraît aujourd'hui. Il s'agit du 11e album en tout de Victory, qui, pour son retour aux affaires, nous balance 12 titres de heavy typiques de ce que savent faire les Allemands hein, depuis 40 ans, c'est-à-dire un heavy aux compos puissantes avec un chant taillé pour soulever les foules, des riffs de guitare en acier trempé, des solis enlevés, le tout accompagné d'une production qui envoie du lourd. Alors sans être le disque du siècle, Gods of Tomorrow c'est un album d'excellente facture, je trouve. Il a tout pour plaire aux amateurs de hard rock et de heavy traditionnel, et en voici d'ailleurs tout de suite un extrait avec le morceau titre qui s'appelle donc Gods of Tomorrow. Voici Victory sur Bike FM. Let's go. heavy hard rock avec une petite, c'est allemand, mais il y a une petite saveur américaine quand même sur ce Gods of Tomorrow. Nom du titre que vous venez d'écouter, mais nom aussi du nouvel album du groupe Victory qui paraît aujourd'hui et sur lequel, ben, c'est un peu tout dans ce sens musical, c'est-à-dire qu'on retrouve des morceaux hard and heavy, c'est direct, c'est efficace, c'est allemand, mais voilà, avec cette petite touche un peu californienne qui est pas désagréable. On va s'arrêter là pour la sélection de nouveautés du jour parce que, ben, il est temps de refermer cette émission sur un air de reprise avec la rubrique Sortez Cover, dans laquelle on va aujourd'hui rendre hommage à un immense artiste, Freddie Mercury, puisque ce mercredi 24 novembre, eh bien, ça marquait les 30 ans de sa disparition, de ce chanteur de Queen. C'était un dimanche et je m'en souviens comme si c'était hier. Et pour lui rendre hommage, eh bien, j'ai choisi la revisite de la chanson Stone Cold Crazy par Metallica. Un choix qui est pas du tout innocent, puisque, souvenez-vous, la semaine dernière, on avait écouté une reprise de Helter Skelter des Beatles et il se dit que Helter Skelter, c'est une des premières chansons, voire la première chanson de heavy metal de l'histoire du rock. Eh bien, figurez-vous que certains considèrent Stone Cold Crazy comme étant la première chanson de thrash metal de l'histoire du rock, bien avant que naisse le genre à San Francisco au début des années 80, scène dont le fer de lance n'est autre que Metallica. Donc voilà, la boucle est bouclée. Sachez d'ailleurs que la version de Stone Cold Crazy par Metallica, elle date de 90. Alors elle figure sur plusieurs supports discographiques et elle figure notamment parmi les bonus tracks de l'album de reprise Garage Inc. paru le 24 novembre 98. Vous voyez, ça faisait tout juste 7 ans que Freddie Mercury décédait ce jour-là. Concernant maintenant la version originale, celle de Queen, alors elle figure sur le troisième album du groupe qui s'appelle Sheer Heart Attack et qui paraît le 8 novembre 74. Alors Sheer Heart Attack, c'est connu comme étant un album patchwork en termes d'influence, en termes d'ambiance. On y trouve également, comme autre titre connu, Killer Queen, bien sûr, on trouve Brighton Rock, on trouve No I'm Here. C'est un album qui nous montre un Queen au sommet de sa période glam, tout en annonçant déjà la folie de A Night at the Opera. Alors, intéressons-nous maintenant deux secondes à Stone Cold Crazy et à cette idée qu'elle serait l'ancêtre du thrash metal. Alors ça, c'est un point de vue qui peut tout à fait se discuter, hein. Mais ce qui est indéniable, c'est qu'elle a un tempo très rapide quand même, presque aussi rapide que du speed metal. Elle a des riffs en staccato qui ont eu une grande influence sur énormément de groupes, comme Metallica, qui d'ailleurs, soulignons-le, avait joué la chanson durant le concert hommage à Freddie Mercury qui avait été donné à Wembley en 92. Et puis, outre Metallica, il est fort probable que Stone Cold Crazy, elle ait influencé aussi Eddie Van Halen. Et pour le constater, ben, je vous invite à aller écouter le morceau Mean Street qui est sur l'album Fair Warning. Alors, finalement, pour en conclure, quelle fut la première chanson trash metal de l'histoire ou pas, Stone Cold Crazy, c'est avant tout un morceau de l'histoire du rock tout court. Et on va du coup l'écouter revu et corrigé par Metallica, alors cette fois-ci à la sauce trash de façon incontestable. Quant à moi, eh bien, je vais vous souhaiter un excellent week-end sur Bike FM. Je vais vous dire à bientôt pour un nouveau numéro de Check Me Load. En attendant, stay metal, stay rock'n'roll. Et si vous l'avez jamais vu, eh bien regardez le film Bohemian Rhapsody parce qu'il est absolument génial. Salut à tous!
Here come a deputy, try fucking getting me, God fucking get up and run. They got the sirens loose, I run right out of juice. They're gonna put me in a cell if I can't go to heaven. Let me go to hell. Crazy, don't go crazy, you know.